et s'agit à l'ambigu de faire la vie. Ce triste, la vie serait moche alors. Alors,
je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Monsieur.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveau disponible de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le greffe comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Masse de faire d'illusions, mais c'est mieux debout pour l'action.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse. Autour du garrot.
C'est toujours Radio Libertaire, c'est toujours 89,4 MHz et c'est l'émission Idéaux et Débat du jour qui commence comme un mardi sur deux sur Radio Libertaire. Avec aujourd'hui un programme chargé, puisque nous entendrons en première partie d'émission un entretien réalisé avec Stéphane Carlier à propos de son très beau roman qui s'intitule Clara Lee Proust, roman qui est paru aux éditions Gallimard. Et puis nous retrouverons en deuxième partie la chronique de Gérard Guégan qui lui-même parlera de trois ouvrages très différents et pourtant passionnants. Le premier, ce sera un livre de Christophe Bataille qui est paru chez Grasset et qui s'intitule « Noël à Versailles ». Le second, c'est Warren Ellis avec un roman paru aux éditions de la Table Ronde qui s'appelle « Le chewing-gum » de Nina Simone. Et pour terminer, un livre d'Eugène Durif paru aux éditions Le Canoë et qui s'intitule « Lucia Joyce ». Folle fille de son père. Voilà pour le programme du jour. Je vous ai dit, c'est un programme costaud avec plein d'ouvrages à se mettre sous les yeux. Donc on va commencer tout de suite en retrouvant Stéphane Carlier pour Clara Lee Proust, roman paru aux éditions Gallimard. Toujours pour Radio Libertaire 89,4 MHz, avec le plaisir de recevoir pour la première fois Stéphane Carlier, que j'ai découvert avec ce roman qui est paru chez Gallimard et qui s'intitule Clara Lee Proust. Alors moi, ce livre, je l'ai beaucoup aimé, ça m'a même donné envie de lire les précédents, du coup, qui n'étaient pas dans la même maison d'édition. Mais on se retrouve aujourd'hui pour parler de Clara et de Clara qui lit Proust. Et ce livre qui m'a vraiment beaucoup touchée, j'aimerais, Stéphane Carlier, qu'on parle d'emblée de la phrase que vous avez mise en exergue, qui est une citation de Virginia Woolf, et qui dit ceci. « L'affaire est de se libérer soi-même, trouver ses vraies dimensions, ne pas se laisser gêner. » Et je trouve que ça va très très bien avec l'histoire.
Vous voulez un commentaire de texte?
Non, je voulais savoir comment.
Oui, c'est la morale, c'est le sens, c'est le message principal de ce livre. Je paraphrase, en fait, je ne fais que paraphraser cette Virginia Woolf. et avec avec une phrase d'ailleurs à la fin du livre, un peu plus élaborée, un peu plus longue, à la toute fin du livre, dans le dernier chapitre, que d'ailleurs un jeune lecteur a photographié ce matin sur Instagram. Je suis très content parce que les lycéens et les collégiens aiment beaucoup ce message qui leur parle directement, qui est un message d'une sorte de libération comme ça, de ce qui nous est donné à la naissance ou voilà par notre ce qui nous est donné et ce que l'on en fait. Voilà, c'est tout le sens du livre, effectivement. Dans mon livre précédent, L'enterrement de Serge, qui était pour le coup alors plus une comédie familiale, je disais, on est jeté dans cette vie comme un caillou et le reste dépend surtout de l'endroit où on est tombé. Voilà, donc Clara est un peu la réponse à cette phrase. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de l'endroit où on est né, de nos origines familiales, géographiques,
toute la question du déterminisme social
et pas seulement social, familial, intellectuel, tout là.
Alors, on va présenter Clara. Il faut quand même en parler de Clara. Donc, Clara, c'est une toute jeune femme qui vit avec un très beau jeune homme, pompier, JB. C'est la gravure du beau mec qui a des parents aimants et qui travaille comme coiffeuse dans un salon de coiffure, j'allais dire, entre guillemets, à l'ancienne.
C'est pas un grand salon, c'est un salon, c'est pas non plus, mais bon, c'est un salon, je ne sais pas, comme on en voit beaucoup. Moi, je vis en Saône-et-Loire, à Chalon-sur-Saône, et quand on se promène à Chalon, ou dans les villes, à Mâcon, ou au Creusot, voilà, dans les villes un peu importantes comme ça de la région, on voit tous ces petits salons qui perdurent. On se demande d'ailleurs comment ils font pour perdurer. Il suffit de jeter un œil à l'intérieur pour comprendre que voilà, c'est une clientèle d'habitués, surtout pas essentiellement féminine et un petit peu âgée.
Oui, oui, oui.
Et donc c'est un salon sans envergure, hein, vraiment sans envergure, un petit salon de quartier. Et Clara est coiffeuse là-dedans, elle est employée, elle a des collègues, elle a une patronne, et voilà, et elle vit sans vraiment se demander si elle est heureuse, sans se poser la question. Voilà, dans la première partie du livre, on la rencontre, et puis dans son quotidien, et
alors,
qui n'est ni tout à fait heureux ni tout à fait malheureux, un petit peu un entre-deux.
Pas tout à fait d'accord avec vous, parce que à un moment où elle va donc elle a une vie très ritualisée, hein, donc
oui.
comme beaucoup de gens, comme la plupart des gens, elle prend les transports en commun pour aller travailler, elle fait sa journée de travail, elle retrouve son mec avec qui elle est depuis un certain temps, mais bon, avec qui ça marche plus tant que ça. Et puis le dimanche, c'est le repas avec ses parents, familial. En plus, ses parents adorent ce mec. Et à un moment, bon, le rituel veut qu'après le déjeuner, il y a une promenade familiale. Et tout est parfait. Et elle se pose la question de savoir si c'est ça le
bonheur. Oui, elle a des petites attaques, comme des petites attaques de clairvoyance. Voilà. Oui, il y a des moments un peu où, comme tout le monde, hein, on est effectivement. Oui, ça réfère à, ça renvoie à des souvenirs personnels de déjeuner du dimanche. Chez ma grand-mère à Argenteuil quand j'étais petit, où là effectivement il y avait une sorte de prise de conscience existentielle où je me disais mais quoi, c'est ça la vie? Et il y avait un côté à la fois rassurant et parce qu'effectivement c'est un rituel du dimanche avec la nourriture, etc., et un côté à la fois extrêmement angoissant, je crois. Les premières angoisses sont apparues à ce moment. J'ai voulu que Clara les éprouve aussi, ces premières angoisses existentielles, une espèce de... C'est très bizarre, c'est, euh, C'est l'atmosphère, c'est le temps qui s'étire du dimanche, c'est... Voilà, effectivement. Il y a ces petits moments-là, oui, ces petits moments d'angoisse.
C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le sud, le temps dure longtemps, et la vie sûrement. Plus d'un million d'années, et toujours en été. Y a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse. Y'a plein de chiens, y'a même un chat, une tortue, des poissons rouges, il ne manque rien. On dirait le sud, le temps dure longtemps. Et la vie sûrement, plus d'un million d'années, et toujours en été.
Et puis, j'allais dire, il y a cette fréquentation quotidienne du salon de coiffure avec cette galerie de personnages, d'êtres humains qui peut défiler. Alors, comme vous l'évoquiez, Stéphane Carlier dans Clara Lee Proust, donc ce roman paru chez Gallimard, dans ce salon de coiffure, bah, la moyenne d'âge est plutôt élevée. Hein. Ce sont des vieilles dames qui vont disparaître. On enlèvera leurs fiches au fur et à mesure. Mais c'est aussi une galerie de personnages récurrents qui sont tous aussi touchants les uns que les autres. Et moi, c'est ce qui m'a émue aussi dans ce livre. Alors déjà, il y a le personnel, chacun avec sa petite caractéristique. La patronne, il va falloir en parler parce que c'est une femme absolument extraordinaire, Madame Habib. Il y a les autres employés, le mec qui vient que le samedi, la coiffeuse un peu lente qui passe son temps à louper le permis de conduire. Et puis, il y a des clientes, avec des clientes absolument extraordinaires. On parlera aussi de Claudie, bien sûr, parce qu'elle va avoir un rôle déterminant dans l'histoire. Donc oui, c'est un microcosme de gens ordinaires, entre guillemets, mais sans le sens péjoratif du terme, et dont vous montrez tous les aspects, c'est-à-dire à la fois les petits travers, mais en même temps la grande richesse. Et ça m'a beaucoup touchée.
Oui, c'est ce que je ne sais plus quel journal a appelé les petites gens. Mais bon, c'est un peu péjoratif, mais c'est ce qu'on disait quand j'étais petit, on appelait ça les petites gens. C'est bizarre cette manière de dire. J'aime beaucoup les gens, bon, et je vis dans une province riche et belle, et j'adore passer du temps à rencontrer mes voisins, les gens qui sont en bas de la rue, etc., les gens du quartier. On a des platanes encore avec des oiseaux, et quand il fait un peu chaud, on va se réunir sur des bancs et puis on discute. Alors, la moyenne d'âge là aussi encore, enfin là encore est un peu élevée, mais et moi j'adore les écouter. Et ça c'est aussi proustien. Proust était fasciné par le langage et les noms et les mots et les prononciations et les phrases récurrentes et les tics de enfin tout ce qui concerne le langage le fascinait. Il adorait. Il a passé la première partie de sa vie à observer et à écouter. Et moi je ne prends pas pour Proust, évidemment, mais j'aime beaucoup, beaucoup, je l'ai fait aussi beaucoup pour l'enterrement de Serge, écouter les gens, écouter leurs histoires, et les écouter me parler, là, ici, dans le quartier, ou en Vendée, quand je vais chez ma mère, voilà. Et pour, juste pour... Donc c'est vrai, en général, tout ce qui est dans le livre est vrai, et notamment le personnage de Claudie est un personnage réel, si je puis dire, enfin, c'est une personne qui existe vraiment, et qui... On va peut-être pas dévoiler. Enfin,
non,
je sais
non,
pas
non,
si...
non, non, on va pas, on va non. pas dévoiler. Non.
Mais en tout cas, c'est un. Voilà, un jour, j'étais chez ma maman en Vendée, donc exactement de l'autre côté du pays, et puis je vois un car scolaire qui est sur le parking, là où elle a mis sa petite voiture, et elle me dit, mais je lui dis, mais pourquoi il y a un car scolaire? Elle me dit, parce que la personne qui conduit le car scolaire habite à côté, et le soir, quand alors, il ou elle, je ne savais pas trop comment dire, a fini son travail, ben il le garde là jusqu'au lendemain. Et puis voilà, puis elle m'a raconté l'histoire de ce Claude / Claudie, et que j'ai trouvé très très belle. Alors évidemment, après, je me mettais à la fenêtre pour guetter les passages de Claudie. Et, oui, j'ai trouvé ça un très beau personnage qui m'a beaucoup touché, et donc j'ai voulu absolument le faire exister, oui, dans le livre.
Et puis donc on va quand même évoquer le personnage de cette patronne, Madame Habib, parce que là aussi c'est un personnage touchant et en même temps littérairement très riche. Et c'est ce qui m'a intéressée, parce que dans la description que vous en faites, déjà il y a un nuage de Chalimard qui arrive d'emblée, et puis après on voit arriver cette femme qui a eu un passé à Paris, un passé grandiose, qui a dansé avec Jacques Chazot, enfin bon, voilà, et qui est un personnage complexe et extrêmement attachant.
Ah là là, alors si vous me lancez sur Madame Habib, là on en a jusqu'à demain matin.
Ah
là,
mais c'est... je l'adore.
Madame Habib, c'est alors d'abord ce qu'il faut dire, c'est que c'est vraiment le personnage proustien par excellence. Oui. Proust est vraiment à la recherche du temps perdu. Hein, le dernier volume s'appelle Le temps perdu, et dans ce dernier volume de la recherche, on voit les personnages qui ont vieilli. Donc il fallait un personnage comme ça qui
a un passé.
voilà, qui est surtout un passé et puis qui a décliné. Sa trajectoire est exactement proportionnellement inverse à celle de Clara. Clara, c'est l'histoire d'une montée, d'une émancipation. Et puis, malheureusement, la trajectoire de Jacqueline Habib est inverse, c'est-à-dire qu'elle baisse, quoi, parce que c'est une femme âgée qui a connu, voilà, ses années de grandeur à un autre moment. On sent ça. Donc, c'est vraiment un personnage proustien. J'ai vraiment essayé de la décrire comme Proust décrit ses personnages féminins importants, que ce soit Madame Verdurin ou la Duchesse de Guermantes. C'est-à-dire qu'à un moment, dans le roman, je vais vous montrer un geste et insister sur un geste de Madame Habib. Je vais montrer au lecteur un mot. Je vais faire entendre un mot ou une phrase qui revient dans sa bouche. Pourquoi ? Parce que c'est une manière très proustienne de faire exister les personnages. C'est quand même un livre hommage à Proust. Donc il y a ça. Et puis enfin, c'est vrai que Madame Habib est un personnage beaucoup plus riche que celui de Clara, évidemment, puisque Clara est en devenir. Donc il n'y a pas énormément de choses à en dire, mais. Je dois dire que je me suis, enfin, si je peux dire, Madame Habib, c'est moi. Voilà. C'est-à-dire que c'est, je me retrouve beaucoup dans cette femme et voilà, et dans son expérience et j'ai mis beaucoup de moi.
Envie de changer l'atmosphère d'attitude. Tout doucement, besoin d'amour pour remplacer l'habitude. Tout simplement, arrêter les minutes supplémentaires qui font de ma vie un enfer. Je l'aime encore, mais plus vraiment. Tout doucement, sortie de ses draps. Son cœur, tout doucement, sans faire de bruit pour pas qu'il pleure. Tout simplement, changer de peau, oublier toutes les avant, fermer les yeux, se sentir de nouveau autrement. Son cœur dans sa tête. Si encore il m'attend, tout simplement, fermer pour cause des sentiments différents. Tout simplement, fermer pour cause un bon terme dans mon cœur, dans ma tête. Changer tout vraiment. Ce ne sont pas celles du temps qui passe, presque en silence quand on debut en serre. C'est pas vraiment la solitude, mais c'est la certitude d'un sentiment indépendant de son attitude. Oh, tout simplement, fermé pour cause des sentiments différents. Dans son cœur, dans sa tête, changer tout vraiment. Du cœur tourner la page. Tout simplement, choisis un nouveau livre d'images. Tout doucement, prêt à prendre à passionnément, tout simplement. Une autre histoire dans un monde différent. Tout simplement, faire pour causer des sentiments différents. Reviendrait peut-être dans un jour, un mois, un an, dans son cœur.
C'est vrai qu'on sait peu de choses sur Clara. D'ailleurs, on la visualise pas très bien parce qu'elle est assez neutre, assez incolore au départ. Et le personnage sur lequel s'axe la première partie du livre, qui s'appelle donc du nom du Cindy Coiffure, du nom du salon, c'est ce personnage de Madame Habib. Et ce personnage va être un peu le moteur, puisque dans ce salon de coiffure, un client va venir un jour et va oublier, entre guillemets, parce que qu'en est-il pour de vrai ? L'a-t-il fait exprès ? Ou est-ce un véritable oubli ? Un livre de poche que Clara va ramasser et mettre dans ses affaires et qu'elle ramènera chez elle. Et ça va être le point de départ de son, j'allais dire, de son envol, de son émancipation.
Oui. Ça me fait penser, quand vous dites qu'on n'est pas sûr qu'il l'a oublié, tout le monde, c'est très intelligent, évidemment, comme réflexion, tout le monde, les lecteurs un peu attentifs le remarquent, ils disent « Ah !» Et ça me fait penser, en fait, je viens d'y penser, au père d'Alexandre Jardin, donc Pascal Jardin, le scénariste très, très talentueux, qui est des années 70. Et Alexandre Jardin raconte dans un de ses livres que son père laissait des billets de 500 francs. Alors, à l'époque, il y avait des cabines téléphoniques, et dans ces cabines téléphoniques, on trouvait un bottin de l'endroit du département où se trouvait dans lequel se trouvait la cabine. Et Pascal Jardin, qui était un être exceptionnel, généreux, etc., laissait des billets de 500 francs dans les bottins en se disant qu'un jour, voilà, il ferait le bonheur de quelqu'un qui, cherchant un nom dans le bottin, trouverait ce billet. Ça peut être un billet de 500 francs, puis pourquoi pas, effectivement, c'est un beau cadeau aussi d'offrir du côté de chez Swann, comme ça, par hasard, sans savoir si la personne qui va le trouver va même l'ouvrir, on ne sait pas, mais voilà, ça peut aussi être une graine qui fait pousser quelque chose. C'est ce qui déclenche le début de la lente transformation, de la lente du lent émerveillement.
Oui, mais donc la deuxième partie du livre s'appelle Marcel, bien sûr. Mais moi, ce qui m'a intéressé dans votre manière d'écrire, Stéphane Carlier, donc dans Clara Lee Proust, paru chez Gallimard, c'est l'approche que va avoir Clara par rapport à ce livre, parce qu'on a vraiment l'impression j'ai utilisé une métaphore un peu bancale, mais on a vraiment l'impression qu'elle est face à un animal sauvage qu'elle va devoir apprivoiser. Alors, est-ce elle l'animal sauvage ou est-ce le livre ? Chacun pourra en juger de son point de vue. Mais en tout cas, il y a un lent travail d'approche et c'est cette finesse d'approche que vous décrivez si bien.
L'animal sauvage, c'est très bien vu. C'est ce qu'elle, je sais pas, non, je le dis pas dans le roman, mais c'est l'expression de freak, monstre. Et il y a trois freaks dans le livre. C'est Proust, Claudie et Clara. Et finalement, Clara. Ah oui, c'est Frédéric Martin du Tripode qui m'a dit ça. Il a été mon premier lecteur c'est mon éditeur aussi, mais pas de ce livre-là. Et donc, je lui ai fait lire en premier, et il m'a dit, mais Clara, c'est une punk.
Ouais.
Et je trouvais ça génial, parce qu'effectivement, voilà, il y a la normalité, la vie, le salon. Et puis, il y a ces trois punks qui sont, à travers les années, voilà, ces trois punks qui sont Proust, Claudie et Clara. Et oui, ça c'est vachement important parce qu'en fait Clara c'est une rebelle, hein. C'est une jeune femme de 23 ans qui se met à lire Proust, et on ne va pas dire après ce qui se passe,
non,
comment elle le lit, où elle le lit, etc. Mais pour moi, c'est ça, l'acte de rébellion aujourd'hui, c'est d'être, de se tourner vers l'intelligence, vers ce qui est exigeant, vers ce qui prend du temps, voilà, dans une époque où on est complètement soumis voilà, à l'immédiateté, la rapidité, la stupidité, la médiocrité, l'absence de beauté, ça c'est vachement important aussi. La beauté, c'est un thème central et de la recherche du temps perdu et de Clara Lippus, c'est-à-dire qu'on a accès à cette beauté, cette beauté du langage et de la littérature. Donc Clara, en fait, elle va contre le courant dans lequel sont embarqués la plupart des gens aujourd'hui, et elle va à contre-courant, elle remonte vraiment à contre-courant.
Oui,
ouais.
Et en plus, son côté rebelle s'applique également à elle-même, c'est-à-dire qu'elle va lire une première phrase, déjà elle est happée par la couverture, puis après elle va lire une première phrase, elle va rien comprendre, elle va se dire c'est quoi ce truc, et pourtant elle va y aller quand même. Et donc effectivement, à notre époque, c'est tout blanc ou tout noir, ça me plaît pas, je jette. Et elle n'est pas du tout dans cette démarche-là. Et c'est ça qui fait que c'est un personnage aussi rebelle et intemporel, c'est qu'elle va au-delà de l'apparence. Et de la première.
Oui, alors là aussi, il y a quelque chose, c'est que le début de beaucoup plus, quelque chose de beaucoup plus pratique, c'est que le début du côté de chez Swann, à mon sens, est complètement raté. C'est-à-dire que si Proust voulait détourner les lecteurs de son livre, il a parfaitement réussi. Parce que jusqu'à la Madeleine, c'est incompréhensible. Enfin, c'est vraiment chiant. Après longtemps, je me suis couché de bonheur. Les passages, les chapitres qui suivent sont vraiment, complètement, mais pas du tout passionnant, et ça revient après l'intérêt, il parle de Charles Quint, il parle de, enfin vraiment de choses, et puis alors après il décrit pendant des chapitres comment il se retournait dans le lit, comment il avait l'impression d'être, enfin vraiment il y a rien de tel pour ne pas donner envie au lecteur de continuer sa lecture. Donc il fallait aussi, j'avais envie de dire ça, c'est pas un livre parfait. De toute façon, il n'y en a pas, mais c'est un livre aussi très imparfait, avec des défauts. Je pense que s'il revenait aujourd'hui, Marcel Proust se corrigerait, se couperait, dirait « Oh là là, mais qu'est-ce qui m'a pris ?» À un moment, évidemment, comme il a écrit son livre jusqu'à la fin, à un moment, il fait revenir des personnages dans La recherche du temps perdu qu'il avait fait mourir avant. Il se trompe dans les noms. Je crois que c'est Brichot ou je ne sais plus quel personnage qui donne un autre nom. Alors évidemment, le lecteur ne comprend plus rien, puisque, et donc j'avais très envie aussi de dire ça, c'est un livre très imparfait, boursouflé, j'avais envie que ça commence comme ça. Clara, quand elle rentre dans La recherche de son perdu, son premier réflexe c'est de jeter le livre sur le canapé avant de le reprendre, bien sûr, mais elle dit mais qu'est-ce que c'est que ce type, quoi.
Oui, puis après c'est une histoire de compagnonnage, parce qu'elle est assez assez libre pour s'affranchir d'une lecture littérale et de s'autoriser à passer quelques pages quand vraiment c'est trop chiant. Et c'est ça qui m'émeut aussi chez elle, c'est le fait que qu'elle le fait sans enjeu, et que le fait de lire sans enjeu, simplement pour être dans la musique des mots, va lui montrer le pouvoir des livres et le pouvoir de Proust.
Oui. À chaque fois qu'elle dit qu'elle lit Proust, enfin à un moment elle dit qu'elle lit Proust à Madame Habib, Madame Habib lui dit mais c'est pour un examen.
Ouais.
C'est incompréhensible pour elle. Vous préparez un examen ou quelque chose. Même le libraire, je crois, lui fait une réflexion dans ce sens, parce que ça paraît tellement inconcevable qu'une jeune femme de 23 ans se mette à lire ça pour le plaisir. Oui. Je pense qu'il peut vraiment y avoir, comme dit mon frère, on peut vraiment kiffer, quoi. Ouais. C'est beau, c'est très beau. Et puis il faut un temps d'acclimatation à la phrase, hein, ça enfin, c'est sûr. Il faut s'acclimater, mais une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, c'est lancinant. C'est comme c'est très beau.
Coup de soleil, un coup d'amour, un coup, je t'aime, je sais pas comment, faut que je me rappelle
Si c'est un rêve de super belle, je dors plus la nuit. Je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Je te vois toute nue sur des sapins. J'en dors plus, viens me voir demain. Mais tu n'es pas là. Si je rêve, tant pis. Quand tout en bas, je dors plus la nuit. Mais tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre en face, et de visiter ton paradis. Je mets des photos dans mes chansons et des voiliers dans ma maison. Je voulais me tirer, mais je me tire plus. Je vis à l'envers, j'aime plus ma rue. J'avais 100 ans, je me reconnais plus. J'aime plus les gens depuis que je t'ai vu. Je veux plus rêver. Je veux que tu viennes me faire voler, me faire je t'aime. Mais tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Mais tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, de t'être en face et de visiter ton paradis. Ça y est, c'est sûr, faut que je me décide. Je vais faire le mur et je tombe dans le vide. Je sais que tu m'attends près de la fontaine. Je t'ai vu descendre d'un arc-en-ciel. Je me jette à l'eau des pluies d'été. Je mets du bateau dans mon quartier. Il fait très beau, on peut ramer. La mer est calme, on peut se tirer. Mais tu n'es pas là. Si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Mais tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la tête en face, et visiter ton paradis. Mais tu n'es pas là.
Travail d'écrivain qu'a fait Stéphane Carlier, parce qu'il va nous donner à lire aussi des phrases de Proust et de La Recherche. Et moi, je me posais la question de savoir comment, justement, vous avez fait ces choix, parce que c'est tellement, j'allais dire, une belle mécanique, mais sans le côté péjoratif, ça tombe tellement bien, ce que vit Clara, les phrases que vous lui faites dire et lire, et ça a un côté... déjà entraînant et donnant envie d'aller plus loin dans la lecture de Proust. Et puis, dans la dynamique du roman, c'est pas du tout pesant, au contraire, c'est cette espèce de jeu de miroir et de mise en abîme est assez fascinante.
Alors, plusieurs choses, ouais. C'est un roman aussi aéré, donc il fallait que... La Recherche est un roman dense et long. Il fallait que Clara Lipro soit un roman court et aéré. Voilà, ça c'est le premier point. Et puis sur les extraits, comment ça s'est passé? J'ai relu La Recherche en prenant énormément de notes et de ce qui me paraissait. Alors, fallait faire la distinction entre mes propres émotions, enfin les émotions du lecteur, moi,
Clara.
Et, et les émotions de Clara, qui ne sont pas les mêmes, parce que je ne suis pas une coiffeuse de 23 ans. Alors, il a fallu vraiment, là, se mettre dans sa peau, c'est un peu être un acteur, hein, et me dire, ah bah tiens, ma Clara, bon, qui me ressemble beaucoup, hein, quand même, mais ma Clara, elle va adorer ça. Elle va, cette phrase va lui parler, tiens, cette phrase, elle va la mettre sur Instagram, tiens, enfin, voilà, je me suis amusé comme ça, donc il y a eu ce travail un peu d'équilibriste qui a consisté à relire la recherche et à, parce qu'il fallait aussi que ça me fasse plaisir, hein, en notant ce qui, elle, pourrait la toucher.
Alors, ça donne de très, très beaux passages. Et en même temps, moi, ça m'a posé question parce qu'à un moment, donc, elle lit. Et à un moment, on va se poser la question de la lecture à haute voix. Et pour Proust, c'était quelque chose qui m'était jamais venu à l'idée. Bon, de toute façon, on ne va pas dévoiler la suite du livre. Mais plus globalement, moi, ça m'a posé question sur le passage d'un texte écrit à l'oral.
Ben, ça fonctionne très bien. Hein. Alors ça, c'est une des révélations pour moi, c'est-à-dire que je suis en tournée là dans les librairies, les médiathèques, les festivals, etc. Et maintenant, je lis systématiquement des extraits de la recherche et ça marche très bien. Les gens qui sont là en redemandent, si bien que la première fois, j'avais sélectionné 3 passages. Je les ai lus et à la fin ils sont restés, ils ont applaudi, ils sont restés là et ils ont dit encore, encore. Mmh. Donc il a fallu que je cherche dans mon téléphone. C'est fou quoi. J'avais plus de passage imprimé, donc il a fallu que je cherche dans mon téléphone un passage. En l'occurrence, c'était la mort de Bergotte devant le tableau, devant le petit pan de mur jaune là au musée à La Haye. Et je l'ai lu sur mon téléphone. Alors ça, c'est une grande révélation pour moi, c'est que non seulement moi je prends un plaisir inouï à lire ça, mais je m'en doutais un peu parce que j'adorais l'émission de Guillaume Gallienne, ça peut pas faire de mal, qui n'existe plus malheureusement, mais j'adorais l'écouter, j'en ai pas manqué un épisode. Et la deuxième chose, c'est que les gens apprécient énormément, et en fait je me demande si les gens ne préfèrent pas l'entendre plutôt que le lire, parce qu'il n'y a pas l'effort, quand on entend, ils ont juste à fermer les yeux et à se laisser porter. Si c'est bien lu, c'est vraiment un plaisir. Quand on le lit,
ça doit être difficile.
Il peut y avoir un effet lassant de cette phrase interminable, etc. Ouais. Quand on l'entend, c'est tellement beau cette poésie. On n'a pas besoin de se dire ah tiens, mais c'est oui. Je pense que c'est, enfin pour moi en tout cas, c'est une révélation. Et je suis en train de voir. On est en train de, avec un ami, de monter un. Qui lui est un grand, grand, grand proustien, de faire une sélection d'extraits qu'on pourrait lire sur scène. Wow. Alors, je ne veux rien dire du tout sur Clara Lee Proust, mais en tout cas, peut-être à Chalon dans la rue, ou à l'Espace des Arts, ici à Chalon, ou alors dans des festivals, dans des. Voilà. Ça me fera un vrai spectacle sur scène de lecture de Proust. Oui.
C'est un beau projet.
Avec de la musique.
C'est un beau projet.
Oui, magnifique. J'ai hâte. Je vais voir cet ami vendredi. Non, samedi. On va passer la journée ensemble. On va travailler là-dessus. J'ai hâte. On va essayer de trouver les meilleurs extraits. Et puis, et surtout aussi, les musiques appropriées. Ça peut être vraiment magnifique parce que là je suis complètement parti dans Satie, Forêt, Saint-Saëns, pas toutes les musiques de l'époque de Proust et même Chopin, même qui est pas de son époque mais dont il parle, et puis aussi pourquoi pas voilà une sonate de Beethoven, enfin vraiment oh là 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 là, je suis complètement excité par ce projet, ouais, qui me plaît beaucoup. Je prends un plaisir inouï à lire la recherche.
À suivre avec impatience. Ah oui. On va, bah justement, je vais rebondir sur et revenir à Clara Lee Proust, donc de Stéphane Carlier, paru chez Gallimard, parce que la bande son du livre, c'est pas du tout ce qu'on vient d'évoquer, mais c'est nostalgie. Et on est dans une ambiance complètement différente. On est ambiance salon de coiffure, mais il y a quelques fois où c'est un vrai plaisir de voir les chansons qui sont citées.
Ça, c'est, il y a deux choses. Ça c'est en référence à Truffaut qui disait les chansons d'amour disent la vérité. Ça, c'est, ça revient dans plusieurs de deux de ses films, je crois. Il aimait beaucoup ses chansons de variété parce que, selon lui, elles disaient la vérité. Et ça, j'aime beaucoup cette idée. Et puis, ce petit clin d'œil à Truffaut. Il y en a plusieurs, hein, des clins d'œil à Truffaut que j'idolâtre dans Clara Lee Proust. Et puis, la deuxième chose, c'est que les chansons, c'est pour moi le vecteur idéal de ce qu'on appelle la mémoire involontaire, donc la mémoire involontaire qui est un des thèmes proustiens, la Madeleine, on est le plus connu, et donc le phénomène de mémoire involontaire se produit avec un parfum, avec un goût, la Madeleine, avec un parfum, une toilette, et aussi avec une chanson qu'on n'a pas entendue depuis longtemps, ça peut faire ça, ça peut vous replonger dans le passé d'une manière. Voilà. Et là se produit ce qui se produit lorsque Marcel met dans sa bouche le morceau de Madeleine avec trempé dans la tisane.
On va laisser les auditeurs découvrir ce roman, donc Clara Lee Proust de Stéphane Carlier, paru chez Gallimard. Question rituelle, maintenant que Clara existe, qu'elle est là, qu'il y a ce projet également de spectacle, est-ce qu'il y a également des envies d'écriture autres qui commencent à germer?
D'autres romans? Ah oui, j'écris sans cesse. Oui, bien sûr, oui. Le prochain roman paraîtra à l'automne, je crois en octobre 2023.
Déjà, voilà. Bien.
Je suis en train de le finir, mais j'écris énormément, je travaille énormément, je passe ma vie à travailler, donc c'est. Mais voilà, on changera complètement de registre puisqu'il s'agit d'un polar, mais comique, enfin voilà, et féministe.
Oh là.
Ça me plaît beaucoup, un polar comédie parce que je peux pas m'empêcher d'en faire, mais bon, quand même bien couillu, hein, si vous me permettez, si vous m'autorisez le terme, qui commence par une scène de massacre d'un bonhomme avec un talon de 8 cm.
Oh. Voilà. Oh, et ça fait mal.
J'aime tout ce que charrie cette scène et tout ce qu'elle veut dire. Et oui, donc ça, c'est rendez-vous à l'automne 2023. Et ce livre paraîtra en même temps que l'édition de poche de L'Enterrement de Serge.
D'accord.
Qui est mon 7e roman, qui est paru l'an dernier, avec un petit succès lui aussi. Enfin, rien à voir avec le succès de Clara Lee Proust, mais quand même un certain succès. Puis les gens viennent souvent me parler dans les salons de L'Enterrement de Serge, alors je suis content. Et donc voilà, on va faire une belle sortie conjointe de ces deux livres.
Ce sera chez qui?
Ça, c'est au Cherche Midi.
D'accord.
Donc, mon éditeur historique.
Voilà. Donc, au plaisir, j'espère, de se revoir pour parler de ce polar.
Volontiers.
En tout cas, merci beaucoup pour Clara Lee Proust. Merci pour cet entretien, Stéphane Carlier. Et puis, bon spectacle.
Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Merci. À bientôt.
Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti? Ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre sans toi
c'est petit. Vous, mes amis, soyez gentils. Vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris crève d'ennui. Toutes ces rues me tuent. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur et pas de pleurs au moment de l'adieu. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien.
C'est toujours Radio Libertaire, toujours 89,4 MHz, et c'était Stéphane Carlier qui nous parlait de Clara Lee Proust, son roman paru aux éditions Gallimard. Je vous rappelle que Radio Libertaire est une radio sans dieu, sans maître, sans publicité, qui ne vit que grâce au soutien des auditeurs. Alors si vous vous demandez comment nous soutenir, allez sur le site et vous trouverez toutes les informations pour les souscriptions, les cartes d'auditeurs, enfin tout ce qui nous permet de continuer de vivre. Et nous allons retrouver dès maintenant la chronique de Gérard Guégan. Chronique qui sera consacrée à trois ouvrages, Noël à Versailles de Christophe Bataille, Le chewing-gum de Nina Simone de Warren Ellis et Lucia Joyce, folle fille de son père, d'Eugène Durif. Voilà, on retrouve Gérard Guégan. Toujours Radio Libertaire et on retrouve la chronique de Gérard Guégan avec aujourd'hui au programme trois ouvrages assez différents puisque nous allons parler de Christophe Bataille, de Warren Ellis et d'Eugène Durif. Alors je ne sais pas dans quel ordre tu veux faire, on commence par lequel ?
On commence par Warren Ellis parce que le livre où Nick Cave apparaît, qui en est le préfacier, c'est donc un livre de Warren Ellis. Il s'appelle « Le chewing-gum » de Nina Simone. Voilà, et c'est paru à la table ronde. Ça, c'est le premier. Après ça, il y aura Eugène Durif, un livre qui s'intitule « Lucia Joyce, folle fille de son père ». Tout est dit à travers ce titre, les éditions du Canoë. Et enfin, « Noël à Versailles » de Christophe Bataille chez Grasset.
On va commencer par parler du dernier livre de Warren Ellis, « Le chewing-gum » de Nina Simone. C'est un beau titre.
C'est un beau titre, mais qui renvoie à une réalité. La réalité est très simple, c'est que le 1er juillet 1999, à Londres, il y avait un festival de musique, le Meltdown Festival, dont le directeur artistique, si on peut dire, était Nick Cave, un grand musicien connu de tout le monde. Et au programme, ce soir-là, comme je crois que c'est le programme de clôture, c'était Nina Simone. Apparemment, pour les Anglais, en tout cas plus qu'en France, Nina Simone, c'est la grande initiatrice, celle qui, en matière de désobéissance artistique, a ouvert la voie à plein de choses. Donc, il y a un enthousiasme dans la salle à l'avance, la salle est surchauffée, tout ça. Et Nick Cave est appelé par l'entourage direct de Nina Simone qui le reçoit et qui lui dit dans sa loge, bon, alors c'est toi qui t'occupes de moi. Alors on lui répond, oui, oui, évidemment, très bien. Donc tu m'appelleras docteur. Tu me prendras comme docteur Nina Simone. Je suis docteur. Alors lui, impeccable, dit, ben, très bien, oui, et vous êtes docteur et je vais vous présenter comme ça. Et donc, on a, il revient dans la salle, il s'installe au premier rang. Au cinquième rang, il y a son pote Warren Ellis. Il se salue, bon, etc. Là-dessus, le rideau s'ouvre et Madame Nina Simone, docteur Nina Simone, fait son entrée d'un pas lourd parce que, à défaut d'avoir des diplômes de docteur, elle avait un faible pour le gin et le whisky et donc elle était déjà chargée. Elle s'avance, elle mâche son chewing-gum, elle a donc un chewing-gum dans la bouche très visible des premiers rangs, tellement elle le mâche avec force et elle le sort de sa bouche. Et elle colle sur le piano, qui est un Steinway.
Ah, la
vache. Et concert, tout ça, etc. La musique commence. Et quand ça se termine, la prestation, on sent toujours que ça va être fini, qu'elle ne va plus rien faire, qu'elle va se lever et se tirer. Warren Ellis se précipite sur la scène, avant même que Nick Cave ait pu placer, pu bouger, parce qu'en fait, ils ont la même idée en tête, c'est récupérer le chewing-gum. Et Warren Ellis récupère le chewing-gum et le met à l'intérieur du mouchoir dont elle s'est servie, qu'elle a laissé en partant sur le piano, pour éponger la sueur de son front et de ses joues, parce qu'elle suait beaucoup lorsqu'elle chantait, parce qu'elle se donnait à fond. Voilà, donc c'est l'histoire de ce chewing-gum, et ce n'est pas une plaisanterie, car il a gardé ça, Warren Ellis, des années durant avec lui. C'était devenu un objet mythologique et mythique, si je puis dire, à la fois. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il est exposé sur un socle à la Bibliothèque royale de Copenhague, comme un objet, un ready-made, qu'on mettrait en scène, voilà, etc. Donc le livre raconte ça au début, c'est très drôle, et quand Warren Ellis lui-même raconte ça, c'est aussi très très drôle. C'est surtout ce qui est drôle, c'est qu'il n'est pas le seul. Nick Cave n'a pas été le seul à remarquer, comment dirais-je, non pas le vol, mais le geste de Warren Ellis. Et donc, où qu'il aille, où qu'il allait, on lui posait toujours la question sur qu'est-ce qu'est devenu ce chewing-gum. Est-ce que vous l'avez mâché vous-même? Quelle couleur il avait? Quel goût? Etc., etc. Donc il dit, chaque fois, je venais moi pour parler de ma musique, puisqu'il est à la fois, quand il n'est pas en groupe, guitariste, il joue de la mandoline aussi, et du violon. C'est un Australien, donc probablement d'origine irlandaise au départ, en tout cas dans sa famille, quand ils ont été des immigrants. Et pour, en plus, voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est un livre très musical. En fait, on lit ça, on s'amuse, c'est drôle. Nick Cave a vraiment beaucoup d'humour. Ils en ont tous les deux. Ils se prennent pas la tête. C'est pas sérieux. C'est pas les reliques c'est pas la statue du commandeur. C'est le chewing-gum de Nina Simone, objet au combien dérisoire, et qui devient entre leurs mains une incitation à la rêverie. Et d'un seul coup, c'est un livre qu'on pourrait lire et qu'on devrait lire en écoutant de la musique, et la musique d'ailleurs, de l'auteur autant que du préfacier, puisqu'ils se sont eux-mêmes associés dans au moins deux groupes. Thank you. Trois livres que j'ai choisis aujourd'hui sont des livres très musicaux, comme on le verra, ou en tout cas qui sollicitent la musique, ce qui n'est pas plus mal, parce que c'est toujours agréable que de faire une place à la musique, ne serait-ce que dans le texte lui-même. Quand on me demande qu'est-ce qui est le plus important quand on écrit un livre, je réponds toujours quand on lit un livre, je dis c'est la musique. Ça.
Ouais.
S'il n'y a pas de musique, ça ne m'intéresse pas, le livre me tombe des mains, quoi. Et c'est quand c'est ma copie, ben elle tombe des mains encore plus vite, quoi. Ça s'entend vraiment, l'absence de musique. C'est assez curieux. Parfois, on n'entend pas la musique, mais parfois, cette absence devient très pesante, très musicale. Mmh. Voilà. Donc, le Eugène du Riff, si tu veux bien.
Oui, vas-y.
À propos de Lucia, il faut prononcer Lucia ou Lucia. Joyce, la fille donc de évidemment l'autre James, et c'est un très 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 joli livre, très musical. Ça fait très, je veux dire, si j'avais à choisir une musique, je choisirais du Mendelssohn. Je mettrais du Mendelssohn derrière. C'est une musique triste, mais parfois souvent qui reprend de la vigueur et devient presque violente. C'est un mélange, Mendelssohn. Et c'est le livre de Eugène du Riff est un mélange. Les premières lignes, c'est très troublant. C'est comme si d'un seul coup un fantôme nous donnait sa main à prendre. C'est voilà, c'est moi là, tel que je suis, tel que j'apparais dans ce miroir. Est-ce que je suis devenue vraiment celle que je parais là? Ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas encore à l'intérieur de moi une autre femme ou une autre fille, celle que je n'aperçois plus que très rarement. Elle s'est perdue ou elle est restée cachée, ne veut plus se montrer. Elle a honte de ce à quoi elle ressemble maintenant, a peur que ce ne soit pas très différent de ce qu'elle est maintenant, celle que je pourrais voir comme image de miroir, celle dont le reflet a été pris à jamais à l'intérieur, comme un voyageur égaré, figé à jamais dans les glaces. On a compris, c'est Lucia qui parle, et évidemment c'est la Lucia malade,
oui.
Si je peux dire, avec des guillemets, parce que on l'a taxée de, je veux dire, elle a déjà fait au moins un séjour en hôpital psychiatrique, elle a consulté déjà des psychiatres, elle était très belle, Lucia, et elle était une très grande danseuse, avec un immense talent d'après les témoignages de l'époque. Elle était faite pour avoir une vie triomphale, et en fait, peut-être est-ce là une des clés que dont Duruy ne se sert pas, mais s'il s'en sert pas, c'est sans doute lui qui a raison. En tout cas, moi, j'ai tort, mais si j'ai tort, j'aime bien penser ce que je pense, à savoir que c'est la mort du père qui est là. C'est pas rien d'avoir comme père James Joyce. C'est lourd et pesant, et surtout, il est toujours là. Et c'est lui qui, à un moment donné, avec la mère, évidemment, aussi, qui est là, vont la pousser à consulter, donc à devenir malade. Voilà.
Thank you. let my love by the gasworks wall dream the dream by the old canal. I kiss my girl by the factory wall, dirty old town. Are drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town. On the smoky wind, dirty old town, dirty old town. I'm gonna make me a picture box, shining steel, tempered in the fire. I'll chop you down like an old dead tree. Dirty old town, dirty old town. I met my love by the gasworks wall, dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town, dirty old town, dirty old town.
Parce que malade, elle n'est pas, elle est simplement désobéissante. Elle est, elle vient quand même, il faut pas l'oublier, les Joyce sont des catholiques irlandais. Et il y a l'homme au milieu de tout ça qui, lui, ne l'est pas. C'est évidemment Beckett, Samuel Beckett, qui est lecteur d'anglais à normale supérieure, qui est arrivé d'Irlande, mais qui vient de l'Irlande protestante. Donc c'est la, c'est l'ennemi dont le, dans un autre milieu que le milieu de Joyce, mais malgré tout, même chez Joyce, ça a dû jouer. C'est pas le l'amant, le, et même peut-être le mari qu'on songe à donner à Lucia, ce rôle-là. Les Joyce, on voit bien qu'ils en ont pas très envie. Et Beckett lui-même n'est pas très très flambant. Bon, hein, il n'est pas.
Ah ouais.
Elle s'y prend vraiment assez violemment de Beckett, c'est-à-dire qu'elle lui dit les choses comme peu de femmes les disaient, en tout cas à l'époque où elle devait le dire, mais ça n'était pas rapporté, tandis que là, c'est rapporté. Et à partir de là, eh ben, elle va tout faire pour se détruire. Mmh. Elle va y arriver. Puisqu'elle est morte dans un hôpital psychiatrique, assez vieille d'ailleurs. Elle est morte en 1982.
Ah oui,
et Beckett d'ailleurs est mort en 1989. Mais Mais c'est terrible, c'est un livre terrible, 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 parce que c'est à la fois simple, triste, mélancolique. Là, s'il y a une musique, c'est soit le violon irlandais, soit le lignol mignon, la cornemuse. C'est les Landes, et donc comme il a eu l'intelligence de la faire parler, puisque de la mettre en scène, elle se met en scène, elle dirige le livre, en tout cas on feint de le croire, et c'est donc, en plus du riff, il est très fort pour ça, je veux dire, c'est un langage très simple, il n'y a pas de recherche, mais il n'y a pas non plus de facilité, donc il y a forcément des recherches, simplement elles ne sont pas visibles. Et c'est ça l'écrivain.
C'est ça la force, ben oui. Et puis en plus, dans l'extrait que tu nous as lu, on entend la musique du texte aussi.
Voilà. Donc c'est un très joli livre et très triste. Très triste et qui amènera sans doute le lecteur, s'il fait un effort, ou la lectrice, hein, soyons omnisexes, à lire d'autres livres et des livres. Il y en a au moins un ou deux qui ont paru ces 10 dernières années sur Lucia directement, parce qu'il n'a pas dû tout garder, c'est une telle richesse, il n'allait pas faire un livre sur la psychiatrie, mais il allait.
Oui, et puis c'est un roman quand même, donc oui. Qu'il a fait.
C'est un roman, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a mis, il n'a rien mis, il a raison, son de plus en plus, il ne faut rien mettre.
Oui.
Je suis partisan, c'est ce que je fais maintenant. Je suis pas en disant que ça veut dire roman, pas roman, on ne sait pas. C'est romanesque. Ça,
oui, c'est romanesque, mais il n'a pas voulu faire une biographie exhaustive. C'est pas son propos. C'est pas un livre universitaire.
Non. La preuve, c'est qu'il la met en scène, il la met face à son image. Or, c'est le début de sa maladie. C'est le début de sa maladie. C'est elle face à son image. Qu'est-ce qu'elle devient? Qu'est-ce qu'elle va devenir? Quel sort lui est réservé? Elle a toujours cette ville où elle est née, puisqu'elle est née à Trieste, qui ne ressemble pas au Paris dans lequel elle se retrouve quand elle a 20 ans avec ses parents. Puis il y a cette mère qui est à la fois effacée et à la fois comme toutes les catholiques irlandaises, elle ne plaisante pas plus. On pense toujours que c'est dans les familles protestantes que la rigueur s'exerce. Moi, je pense que les familles catholiques, c'est pas mal aussi.
C'est pas mal, oui.
Et c'est même parfois pire. Voilà, en tout cas, c'est un livre que je recommande, évidemment. Et alors, pour finir, là c'est...
Le Bataille.
Ce qu'il faudrait, c'est Mozart, c'est Concerto pour deux pianos, par exemple. Ça serait très, très bien. Donc, c'est un livre sur l'enfance, en fait. C'est un souvenir. Et un souvenir lié à quelque chose, à un élément physique... qui moi me touche beaucoup, c'est la neige. C'est vrai que quand j'étais enfant, et comme c'est un livre sur l'enfance, c'est l'enfance du narrateur, Christophe Bataille, et de sa sœur, à Versailles, où ils habitaient, le père étant fonctionnaire, la neige c'était magique, dans le fond. C'est plus tard quand on vieillit, quand on grandit d'abord, puis quand on vieillit ensuite, que la neige devient un souci, on va pas pouvoir marcher, on va pas pouvoir rouler, plus rien ne roule, plus rien ne marche. Là, c'est pas ça. Là, c'est magique. C'est magique parce qu'il y a le parc. Et quel parc? Le parc de Versailles. Et il y a ces deux enfants qui sont pas, on va dire ces deux adolescents, même si lui est plus jeune, lui est encore un grand enfant, comme on dirait. La fille est un plus grand. C'est la tente de la neige, parce que c'est l'approche de Noël, évidemment, et que pour ce garçon et cette fille qui sont bien évidemment catholiques aussi, en tout cas pour qui cette fête compte beaucoup, non seulement parce qu'elle est la fête des enfants, comme on disait, et des cadeaux, quand les familles pouvaient en payer, mais ça c'est une famille où on peut, et avec un père d'ailleurs et une mère complètement formidables, le peu qu'ils en dit, on voit une espèce de complémentarité entre la famille, et entre le père, la mère et les enfants, ce qui n'est pas toujours le cas dans la vie réelle, comme on dit. Et là, c'est très bon, c'est un tout petit texte, hein, c'est un divertissement qui fait 59 pages, disons 60, avec une à la fin qui m'a fait sourire, j'ignorais ça. Parce que il cite donc les auteurs dont il a peut-être pris un mot, un début de phrase, tout ça. Donc il y a Pierre de Ronsard, Jean Giraudoux, tout ça c'est logique, Mircea Eliade, c'est très bien. Et puis brusquement il y a Louis Althusser. Alors on se dit c'est une blague. Qu'est-ce qu'il va faire Althusser là ? Je ne sais pas, j'ai pas trouvé la solution. Il doit y en avoir une, elle m'a échappé sans doute. Je pense que c'est un souvenir. Si c'est un souvenir, ça veut dire que Christophe Bataille, ce jeune homme qu'on pensait son grand passé, j'allais dire, qu'on pensait son grand passé politique, brusquement, ce Althusser qui arrive là, c'est très étrange. Après, ouais. Il y a Furet, François Furet, oui. Qui est le contradicteur, évidemment, d'Althusser, Truman Capote et tout ça. Bon, mais c'est Althusser, ça m'a fait vraiment sourire. Je me suis dit, c'est une blague. Bon, on attend ça de la part de Bernard-Henri Lévy, qui nous cite Althusser, puisqu'il est mort, il peut y aller, il peut se dire l'héritier. Macron devrait se dire un jour l'écran lecteur de Althusser, il le dira, j'en suis sûr. Mais ça viendra. Bon, et donc, là, je vais vous lire la fin, la toute fin, la 59e page. Parfois, je me demande s'il s'agit bien de l'année 1981. J'avais 10 ans, et j'entends encore ma sœur crier « Christophe, la neige, regarde, la neige !» Il ne reste pas grand-chose de ses murs, de ses coutumes, de ses mots, à croire que le blanc fumeux finit par emporter les paysages. Et vous, qui ne voyez plus beaucoup la neige, et ne verrez jamais le grand canal gelé, pensez à l'enfance, pensez aux contes, c'est là que la neige s'est réfugiée. »
Voilà, ah, c'est beau, c'est très très beau. Ça s'appelle Noël à Versailles et c'est chez Grasset, c'est ça ?
Et c'est sorti chez Grasset, voilà. Ouais. Et c'est sorti chez Grasset, c'est ça. Voilà, fini pour aujourd'hui.
Eh bien, merci pour ces trois ouvrages très divers et qui donnent tous envie de les lire.
Lorsque l'on a appris la disparition du regretté Michael Jackson, bah oui, un camarade de bureau qui disparaît, ça fait toujours quelque chose. Ma compagne Anne m'a dit, enfin, le marché américain est à prendre. Il s'ouvre devant toi, fonce. Pour conquérir un marché, il faut être agressif, il faut être un gagneur, il faut être un tueur, un killer, un winner, un trader, une terreur. Moi, je suis chanteur, voyageur, rêveur, picoleur à mes heures, skieur, bricoleur. Et tout à coup, je me suis rappelé que j'avais au fond de moi, comme tout bon Suisse, cette agressivité, ce désir de vaincre, qu'il avait été cultivé, qu'il s'était épanoui, qu'il s'était développé à l'époque où j'entendais « L'ennemi arrive de l'Est. Faut bien qu'il vienne de quelque part », nous dit le capitaine Bovard à la gare. J'avais mon sac et tout le reste, quelques litrons, un saucisson. On nous a mis dans des camions. Et allez donc. Il nous fallait pas pétouiller. Début de la guerre était fixé à 8 heures pile, cela dit là. Alors voilà qu'on se retrouve sur la position. Il y avait Poget avec sa guitare, le grand Mimo, et puis Chapuis. Notre mission, garder un pont. Je m'en vais, le pays m'appelle, adieu mamie, j'ai le cœur gros. J'ai mon couteau, j'ai ma gamelle, c'est pas facile d'être un héros. La guerre, c'est pas une mince affaire, j'arrive pas à m'y habituer, bien qu'elle revienne de façon régulière chaque année. Bah, on se dit qu'on est au grand air, loin de la femme et loin du boulot. Au fond, c'est un mal nécessaire, il faut ce qu'il faut. N'empêche que si c'était moi qui commandais, seulement voilà, donc pas la peine d'en discuter, d'en rajouter. On était donc dans un buisson. D'abord, on n'a rien eu à faire. Alors, on a bu quelques verres et tapé le carton. Je m'en vais, le pays m'appelle. Adieu, mamie, j'ai le cœur gros. J'aimerais que tu te rappelles que ton homme était un héros. Pendant 3 jours, ça a duré. Vous imaginez la tension. Que tout d'un coup, grosse émotion, ça a pété. On finissait juste ses poutres. J'avais 50 à l'âge d'atout. Arrive le lieutenant Amstutz. Arrêtez tout! Amstutz, il bosse à l'UBS, c'est dire s'il est compétent. J'ai toute une compagnie aux fesses couchées, bon sang! Les arbitres se sont pointés. 4 gars de l'état-major. Ils nous ont dit, vous êtes morts, c'est terminé. Je m'en vais, le pays m'appelle. Adieu, mamie, j'ai le cœur gros. Voilà qu'il pleut, voilà qu'il gèle. C'est pas facile d'être un héros. 14 fois en 3 semaines que l'on s'est fait neutraliser. À la fin, il paraît quand même qu'on a gagné. On a défendu des villages, des routes, une gare de triage. À chaque fois, les bleus s'amenaient, nous balayaient. Quand on distribuait nos biscuits, comme d'habitude aux écoliers, en rigolant, moi je pensais, pauvre petit. Et pareil pour les jeunes filles qu'on taquinait dans les cafés. Tous ces gens-là, en théorie, étaient crevés. Je m'en vais, le pays m'appelle. Adieu, mamie, j'ai le cœur gros. Parfois le doute m'interpelle. C'est pas facile d'être un héros. Heureusement, il y avait l'ambiance. On aurait eu bien de la chance pour chanter Poget et tout fort, c'est un ténor. Et Mimo, ce rude gaillard, connaît des centaines d'histoires, des Belges, des fribourgeoises aussi, qu'est-ce qu'on a ri. Sauf Chapuis qui l'a ramené à tout bout de champ, mais qu'est-ce qu'on fout. Moi je lui disais, va à Moscou, voir comment c'est. Et maintenant, tout est fini. On a fait comme on nous a dit. On a servi notre patrie et ça suffit. Je reviens vers toi, ma belle, fourbu le foie un peu plus gros. il faudra pousser ma gamelle et nettoyer mes godillots. C'est pas facile d'être un héros.
On arrive à la fin de cette émission d'Idéaux et Débats sur Radio Libertaire. On a parlé de beaucoup d'ouvrages et on va continuer dans les semaines à venir, puisque nous aurons l'occasion dans les émissions prochaines d'écouter Violaine Béraud, qui nous parlera de son roman, Arnaud Catherine, et puis on sortira un petit peu de notre domaine, puisqu'on aura l'occasion de parler de science-fiction, et plus précisément de parler d'Alien. Et ça, c'est tout un programme dont je me réjouis. Donc d'ici là, restez à l'écoute de Radio Libertaire, c'est 89,4 MHz. Portez-vous bien, à la prochaine fois.
Radio Libertaire, Radio Libertaire, Radio Libertaire.
Cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître, pas vrai maître.
Alors,
je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débats, livre et combat.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée, à tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible, à tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le greffe comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mère. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse autour du garrot.